Le grand témoin de cette édition ce soir, c'est Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Alexandre, décidément, je vois beaucoup de gens prendre des facilités avec l'histoire. Et apparemment, ça leur plaît lorsqu'il s'agit de l'histoire des Juifs de France. Donc après, il y aurait beaucoup à dire, et je pense que vous nous en direz un mot, les raccourcis d'Éric Zemmour. On a cette fois-ci, dans un tout autre domaine, dans un tout autre coin de l'échiquier politique, même à l'opposé totalement, une candidate socialiste qui se lance dans des slogans qui pourraient faire sourire d'ailleurs, parce que ça commence par « No pasaran », ils ne passeront pas, comme si on était en pleine guerre d'Espagne, on est juste un détail en 2022, mais voilà, Anne Hidalgo nous dit « La situation des musulmans en France aujourd'hui, c'est exactement celle des juifs dans les années 30, qu'est-ce que inspire l'historien que vous êtes ces facilités, je disais, qu'on prend avec l'histoire des Juifs de France ?»
Bon, bah écoutez, il est évident qu'il aurait suffi d'une phrase pour que Anne, que j'aime beaucoup et que je connais depuis toujours, et dont je connais aussi, non pas le dévouement, mais la passion pour Israël, dise une chose toute simple. C'est-à-dire que, bah, évidemment, quand bien même les musulmans ne sont pas toujours bien traités dans notre société et pas toujours bien considéré, évidemment, ils ne risquaient absolument pas la mort comme l'ont été les juifs, disons, depuis l'arrivée au pouvoir de Hitler jusqu'à la mort de Staline, c'est-à-dire de 1933 à 1954-53, hein, donc 20 ans de condamnation à mort pour les juifs. Jamais, évidemment, les musulmans, même si leur situation n'est pas toujours enviable et qu'on peut comprendre leur désarroi, n'ont été soumis, ni de près ni de loin, à tels défis. Donc, évidemment, comparaison n'est pas raison. Et Anne s'est laissée entraîner par sa générosité, par sa volonté de dire quelque chose, des moros, comme on disait en Espagne, hein, de tous ceux qui ont été maltraités dans l'histoire. Mais bien entendu, elle n'aurait pas dû, ça c'est évident. Oh ben, je pense qu'elle va essayer de réparer les choses. Ce dont je peux porter témoignage, c'est que la première fois que j'ai été la voir, c'était pour une petite aide pour un monument pour les anciens des brigades internationales dont mon père a été un membre éminent. Et que nous avons commencé à parler comme si nous étions des cousins, nous connaissions depuis toujours. Et surtout, elle a immédiatement commencé à me dire que ce qui la distinguait de Martine Aubry, c'était son amour d'Israël, son ahavat Israël.
Ah bon, vous avez dit ça ?
Mais bien sûr, et je ne lui avais rien demandé.
Et, vous avez dit, moi je ne suis pas comme Martine Aubry, j'aime Israël, j'aime... Oui. Mais beaucoup de gens qui la connaissent, effectivement...
Elle m'a dit un peu mieux que ça. Elle m'a dit, il n'y a qu'un endroit au monde, je vous assure, c'est un témoignage parfaitement sincère, un dernier moment où je me sens si bien et si heureuse, c'est quand je suis en Israël. Oh. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors bon, et c'est ce qu'elle pense. Et je peux vous dire que c'est exactement ça. Par ailleurs, son père est rentré en Espagne en 1945, sur le rapport fallacieux que tout avait été effacé, il s'est encore mangé 5 ans de prison sous Franco. Et c'est à ce moment, c'est quand il est revenu, qu'il a pu concevoir la petite Anne, pendant que sa mère l'attendait en France. C'était des instituteurs qui ont été complètement paupérisés par la guerre d'Espagne et par les suites.
Alors, vous faites le lien avec un propos qui est défendu par de nombreux intellectuels dont certains que vous aimez bien, par exemple Alain Finkielkraut, qui dit la gauche pour...
Je n'aime pas bien Alain Finkielkraut, je ne l'aime pas beaucoup d'ailleurs, mais je le respecte profondément. Et ce que je respecte en lui, évidemment, c'est la souffrance qui a été celle de son père, déporté d'Auschwitz, auquel son cousin, qui était mon coturne à l'école normale, refusait certaines choses qui étaient totalement injustes. Ses parents ont été en fait héroïques et c'est une raison pour laquelle, pour moi, Alain Finkielkraut, avec lequel j'ai toujours été en désaccord, est quand même quelqu'un de sacré. Pourquoi ? Parce que mon oncle lui-même est mort à Auschwitz. Et je pense que tous les enfants de cette tragédie doivent savoir qu'ils sont en fait nés une deuxième fois à la vie et à l'histoire à cause d'Auschwitz. Et que donc j'ai une solidarité profonde avec Alain Finkielkraut, c'est celle-là. Sur le reste, je suis toujours en désaccord avec lui.
Alors, avec votre permission, vous me laissez 2 minutes pour que je vous pose la question concernant les propos récents d'Alain Finkielkraut sur Europe. Et c'est Alexandre Adler qui est le grand témoin de l'édition de ce soir. Alexandre, on venait d'évoquer Alain Finkielkraut avec vous et vous disiez, pour moi, il a quelque chose de sacré, Alain Finkielkraut. Il fait partie d'une famille très spéciale qui est celle des rescapés de la Shoah. Et pour moi, il est sacré, même si je suis en désaccord avec lui. Et Alain Finkielkraut a repris une idée qu'il avait développée auparavant, mais qui est aujourd'hui très répandue parmi l'intelligentsia, qui est que le seul moyen que trouve la gauche pour se refaire une santé, c'est l'antifascisme. Alors ça a très très bien fonctionné à l'époque de Jean-Marie Le Pen. On fédérait toujours toutes les gauches autour de l'idée de la lutte contre le danger raciste. C'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui le plus petit dénominateur commun. C'est le sujet sur lequel il n'y a pas de dispute. Ça devrait être comme ça pour la laïcité, ça ne l'est pas. Mais par contre, c'est comme ça pour l'antifascisme. Toute la gauche est d'accord, on fait front face au retour de la vermine. Mais Alain Finkielkraut, en plus, vous nous précisez, attention, il est lui-même fils de rescapé, il dit c'est faux ça. Il n'y a pas de retour du fascisme, c'est un fantasme, et ça permet au contraire d'éviter tous les débats. Et donc moi, je voudrais savoir, voilà le lien avec Anne Hidalgo, si vous vous êtes dit... Anne Hidalgo, avec son discours un peu ridicule à Perpignan, en disant « nos passaranes », ça veut dire « nos passaranes ». Vous voyez des fascistes espagnols dans les rues, vous ? Donc, elle dit ça, « nos passaranes », et aujourd'hui, c'est les musulmans qui sont les juifs d'aujourd'hui. Est-ce que vous dites que, tiens, ça me rappelle ce que disait mon ami Alain, avec qui je suis en général pas d'accord, parce que c'est ça, c'est utiliser l'antifascisme pour essayer de redonner du corps à une campagne qui n'en a plus.
Bah écoutez, pour une fois, je suis bien d'accord avec Alain Finkielkraut, mais à condition de mettre un peu d'humanité et un peu de et pas trop d'intransigeance dans tout ça. Mais je suis d'accord, évidemment, il n'y a pas de fascisme, il n'y a rien de tel. L'Espagne est aujourd'hui un pays exemplaire. D'ailleurs, vous savez que les anciens d'Espagne qui ont tous été là-bas ont droit au passeport espagnol. Et un mien cousin m'a raconté comment lui... avec toute sa famille en Israël, a reçu le passeport espagnol.
Oh.
Mais oui, bien sûr, parce que son père a été combattant, d'ailleurs dans le détachement juif Naftali Botvin, qui s'est battu à peu près dans les mêmes endroits que mon père. Donc bon, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Et puis, je sais très bien combien l'Espagne est aujourd'hui un pays, non pas civilisé, mais civilisateur. Et civilisateur sur à peu près toutes les questions. Donc, bon, c'est la raison pour laquelle je suis d'accord, tout à fait d'accord, à condition de comprendre combien les gens souffrent, combien ils peuvent souffrir, et combien le passé, le présent et l'avenir sont co-présents toujours. Par exemple, pour Anne Hidalgo, ça a été les humiliations terribles, et la prison de son père, au lendemain de la guerre d'Espagne. Bien sûr qu'elle n'aime pas les franquistes, et je ne dis pas qu'il faut les voir partout. Et bien sûr, de la même façon, le père d'Alain n'a pas été reconnu comme il aurait dû l'être pour le martyr qu'il a été pendant Auschwitz. Et voilà. Et donc, ce sont des choses qui demandent de la compréhension et de la compassion. Et c'est très important, cela, Hesed, parce que, bien entendu, nous sommes un combiné de valeurs. Il y a des valeurs de justice, Gevura, d'intransigeance. Il y a aussi une nécessité de la compassion et de l'amour. Car si nous n'avons pas cet amour, bien sûr, dans le christianisme, c'est devenu trop, s'est développé en roue libre. Or, il y a toujours aussi la nécessité de la justice. Je suis d'accord. Mais quand même, soyons justes, effectivement, mais soyons compatissants. Quand Anne a vu la souffrance, la descente sociale des siens, et ce n'était pas rien d'être instituteur, dans l'Espagne de la guerre civile. C'était en fait la bourgeoisie déjà instruite. Et ils ont été réduits à une condition de misère jusqu'à ce que petit à petit les choses s'arrangent. Bon, ben voilà, et Anne elle vient de là. Alors bon, bien sûr, mais ils savaient aussi qu'ils étaient maranes. Et elle a un profond amour d'Israël, c'est comme
elle
ça.
Elle est marane, Anne Hidalgo, d'après vous ?
Ben évidemment.
Ah oui ?
Mais oui, regardez, tous ces titres, Hidalgo, c'est-à-dire aristocrate, c'était des plaisanteries, parce que bien entendu, tous ces juifs réduits et tout ça, ben, ils savaient que parfois ils avaient été de conditions élevées, alors on rigolait, on disait « Ah oui, t'es un Hidalgo », etc.
Mais ça veut dire quoi, Hidalgo ?
Chevalier.
Chevalier.
Oui, bah voilà, bon, bah écoutez, en tout cas, visiblement...
Alors, on parle
si
de manière un peu...
Elle n'a pas appris cet amour d'Israël toute seule.
Je vous laisse vous racler un peu la gorge, nous sommes
excusez-moi,
en direct.
Oui, non, c'est
mais
vraiment...
Buvez un verre d'eau, nous sommes
reste,
en direct.
Non, c'est le reste du Covid, mais c'est rien du tout.
Oh, comment voilà. Ça va ?
Oui, très bien, bien sûr.
Bon, non, pas bien sûr, donc c'est très bien que vous nous disiez oui, ça va. Il se trouve que cette idée, c'est aussi celle d'Éric Zemmour, de dire, voilà, sous prétexte de lutte antifasciste, ça permet de faire taire toute opposition de droite.
Alors ça... voilà, Éric Zemmour est aussi quelqu'un qui a horriblement souffert, et il se trouve que ma femme l'a connu, parce que c'est un jeune homme toujours qui aime comprendre, qui aime discuter, c'est quelqu'un de profondément sympathique sur ce plan-là. Et alors un jour, il voulait parler à ma femme, parce qu'il voulait savoir un peu ce qu'elle pensait de l'état de droit et tout ça. Et mon épouse hésitait, je lui ai dit, écoute, va le voir.
Votre épouse qui est philosophe, hein, qui est l'une des plus éminentes philosophes de France.
La fille d'un dirigeant de la résistance éminent, Maurice Criégel-Valrimont. Bon, je lui ai dit, écoute, va le voir, parce que c'est un garçon de bonne foi, et puis discute un peu avec lui. Et je lui ai quasiment dicté sa réponse. Et ça a été extraordinaire, parce que comme elle venait d'appuyer sur le bouton, et c'est pour ça que je comprends Éric Zemmour. Elle lui a dit, vous savez Éric, c'est vrai, nous avons tous eu un traumatisme terrible pendant cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais elle est différente pour nous, qui vivions à Paris ou dans la clandestinité, en métropole, donc. Bah, la vie, c'était terrible, parce que c'était à la vie, à la mort. Et on a pensé, et moi-même, je suis né en 1943, j'ai pensé que je pouvais y passer. Tout à fait, c'était possible, mon père aussi, et ma mère aussi. Et puis, en Algérie, c'était pas tout à fait la même chose. D'abord...
Ah ben non, on peut pas couper à un moment d'une telle...
Mais non, c'était pas du tout... Au contraire, c'était pour le dire que c'était quand même la même chose.
Et elle dit, on n'a pas entendu, il lui manque deux mots. Donc
lui,
elle lui dit...
Au contraire, pour lui dire, au contraire, ce que voulait me dire mon épouse, c'est oui, c'est la même chose. Au contraire, c'était pas du tout pour nous opposer, mais pour nous dire, voilà, on sait que c'était quelque chose aussi, mais c'était tragique, c'était la révocation du décret Crémieux...
Et qu'est-ce qu'il dit Zemmour quand elle lui dit ça ? Parce que Zemmour, quand il passe à la télé, il dit, moi je m'en fous, hein. Dis-moi ça, vous n'allez pas me parler du décret Crémieux jusqu'à la fin de votre vie, c'est pas le problème.
Pourquoi ? Ben tout simplement parce que, au moment où est venu ce qui était pour Éric Zemmour, il faut quand même qu'il le dise un jour, la trahison du général de Gaulle, dont il se réclame aujourd'hui de manière très impropre, eh bien, il a considéré que de Gaulle avait trahi l'Algérie française. Et il a été d'une petite minorité de juifs, il y en avait, qui ont dit c'est vrai que. Au moment du décret, la révocation du décret sous Vichy, on n'était pas très bien avec les goïms. Mais maintenant, il n'y a qu'une lutte. C'est le FLN et les Felaga. C'est eux qui veulent nous tuer et nous allons les tuer. Bon. Alors, ses parents faisaient la partie de la petite minorité, ils étaient en Oranie, qui ont décidé finalement d'oublier les griefs et de faire front ensemble pour l'Algérie française. Voilà ce qu'ils ont fait. C'était des combattants de l'Algérie française. En plus, non seulement c'était des combattants, mais c'était des gens assez héroïques qui en sont morts. Car bien entendu, ils n'étaient pas de force face à la majorité FLN, Felaga, comme ils disaient. Et donc, ils ont été tués. ils n'ont pas été seulement tués, leurs corps ont été mutilés quand on les a rendus. Voilà la tragédie qu'a connue le petit Zemmour quand il était tout jeune.
Mais il y en a d'autres qui le traduisent différemment et disent, attends, par exemple Benjamin Stora m'a dit,
bien sûr.
Benjamin m'a dit, dans l'histoire des Juifs d'Algérie, c'est le grand spécialiste des Juifs d'Algérie, c'est l'expert.
Oh, je sais, et je le connais bien.
Il me dit, c'est très rare hein, des gens qui vont, il dit, on a vu beaucoup qui ont épousé la cause des pieds noirs, il dit,
ça existe.
Mais il dit, mais aller jusqu'à dédouaner Pétain, il me dit, je pense que c'est le seul cas.
Ben voilà, ben c'est à cause de ça, à cause du décret Crémieux, et c'est pas important, il faut combattre les Arabes, mort aux Arabes. Voilà, bon écoute, il a pensé ça.
Uh-huh.
Et il en est mort, le père et l'oncle. Et c'est cette tragédie que Éric Zemmour...
Le père est mort pendant la guerre d'Algérie ?
Ils ont été tués par le FLN, bien sûr. Uh-huh. Non seulement ils ont été tués, mais ils ont été défigurés. Ils ont rendu le cadavre méconnaissable. Voilà ce qu'ils ont fait. Son père et son oncle.
De Éric Zemmour.
Alors évidemment que ça le poursuit toute une vie. Moi-même, je suis poursuivi par Auschwitz. C'est pour ça que je le comprends.
Ah, c'est la partie qu'on n'a pas entendue quand on a eu une coupure dans notre conversation. Son père et son... Et votre femme, donc... Blandine Krige,
elle lui a dit,
ne t'inquiète pas, pour moi je suis fils de rescapé de la Shoah, toi tu es fils de rescapé de ça, pour moi c'est pareil.
Oui, parce que bien entendu, on a compris que la tragédie que ça a été pour lui, et bien entendu qu'on n'était pas d'accord, non seulement, mais on était à fond pour le général de Gaulle à ce moment-là, et pour la victoire de la République et de la légalité, mais ça c'est une chose. Mais comprendre aussi le malheur de nos frères en Algérie, de la tragédie qu'ils ont subie, et de la façon dont certains ont été véritablement déségarés, Mego Hashim. Eh ben oui, c'est arrivé ça. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai que sympathie personnelle pour Éric Zemmour. Parce que je vois qu'il est comme une force qui va un peu halluciner. Le problème, c'est qu'il est au service de Bolloré, et d'une ambition qui est différente, qui est celle, parce que là encore, une histoire extraordinaire, Bolloré, lui, non seulement n'est pas antisémite, mais il est profondément pro-israélien, tout en étant un profond réac. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris ça, parce que j'ai eu toujours son amitié, et en même temps, il s'est toujours dérobé, mais en fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, la grand-mère de Bolloré, par ailleurs, une grande famille d'industriels qui ont été des innovateurs, d'ailleurs, de Morlaix, dans le Finistère, vrai breton, eh bien, sa grand-mère était tout ce qu'il y a de juive, c'est une femme d'une grande beauté, et elle a décidé, un beau jour, d'aller en Israël, en Palestine, pour participer au combat de la naissance d'Israël.
La grand-mère de Bolloré.
La grand-mère de Bolloré, elle a fait ça, c'était une femme extraordinaire.
Femme juive.
Tout à fait juive.
La mère de sa mère ?
La mère de sa mère. Oh. Et bien entendu, elle a fait ça, elle est allée en Eretz Israël, elle a participé à la... elle a été une combattante, je le dis aussi, d'Israël. Après, elle est rentrée et elle a vécu dans la famille Bolloré, toujours. Et elle était évidemment le personnage dominant. C'est la raison pour laquelle Bolloré lui-même est à la fois OAS, parce que son père, qui a été un héros du débarquement en 1944, le général de Gaulle, n'a pas voulu en faire un compagnon de libération. Ça lui fait tellement mal qu'il m'a toujours dit que son oncle, Gwenaën Bolloré, était compagnon de la libération, parce qu'en fait, ça lui fait mal, parce qu'il pense que ça aurait été juste. Et je le pense aussi, d'ailleurs. Et Gwenaël Bolloré, le général de Gaulle ne l'aimait pas, et il a encore moins aimé quand il s'est mis du côté de l'OAS, tout comme Zemmour.
Alexandre Adler, merci pour ce témoignage sur Radio Shalom. Je vous remercie d'avoir
accepté. Comme les choses sont complexes, c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit à Marine Le Pen, il faut juger les gens pour leurs actes, jamais pour les décisions en général. Chaque acte est compliqué, chaque vie est compliquée, beaucoup sont honorables, mais à la fin des fins, il faut aussi choisir Gevura, il faut choisir la justice. Et la justice, c'est aujourd'hui de venir au secours, alors qu'ils n'ont pas fait que du bien de nos compatriotes musulmans et de ne pas attiser les choses. Je comprends pourquoi certains le font, ils ont tort.
On va cependant clore, tout simplement parce que la montre, l'horloge ne nous permet pas.
Et à moi, je vous remercie et je m'excuse encore des ennuis techniques qui font que nous n'avons pas pu parler la dernière fois.
Alexandre Adler, vous êtes tout excusé sur l'antenne de Radio Shalom et je vous remercie d'avoir été le grand témoin de cette édition. Bonsoir à vous. Tout de suite, le journal de Pierre Grandus.